Alors bonsoir, deux, trois mots d'introduction en tant que libraire ici. D'abord, il faut vous souhaiter la bienvenue. Et pour dire que donc nous avons été ouverts tout le week-end pour les Journées européennes du patrimoine qui avaient pour thème cette année la communauté et la citoyenneté pour les Journées françaises du patrimoine. Alors du coup, en le voyant le thème, avait germé l'idée de dire, eh bien, pour nous, la citoyenneté, elle est aussi une citoyenneté internationale. Et donc du coup, d'où l'idée d'une rencontre au sein des Journées du patrimoine autour d'une, peut-être une utopie, mais on ne l'espère pas, et je crois qu'on va en avoir le témoignage, d'une citoyenneté, l'existence et la concrétisation d'une citoyenneté internationale. Dans ce cadre-là, on a accueilli une calligraphe, Charlotte Tournay, qui, pendant ce week-end, a invité les promeneurs des Journées du patrimoine à dédicacer, à endosser la Déclaration universelle des droits de l'homme par une calligraphie. Et donc, elle leur a enseigné l'art de la calligraphie pour les inviter à endosser la Déclaration universelle des droits de l'homme en y calligraphiant des mots-clés ou un extrait d'un article. Et on a une personne qui a même marqué un article entier pendant ce week-end pour endosser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc là, ce soir, je vais vous céder la parole, mais donc du coup, on se réjouissait de recevoir les éditions Bruno Doucet, avec qui on organise ces rencontres géopolitiques, géopoétiques, et de l'associer à un auteur de la maison, qui est Benoît Muratiol, qui a écrit un ouvrage, Quelconquière pour les armes, où il décrit les 20 ans qu'il a passés à promouvoir et à développer l'esprit de beaucoup de personnes autour des ONG et puis des autorités des différents pays pour que émerge par le biais des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, un traité sur le commerce des armes. Alors il vous l'exprimera bien mieux que moi, et moi j'ai relate en tant que premier lecteur. Et du coup, on a associé à une anthologie, une collection d'anthologies qui sont publiées par les éditions Bruno Doucet. Et donc Bruno Doucet, l'éditeur, est là, et puis un des auteurs de ces ouvrages d'anthologie, Pierre Cobel, est également là pour vous en parler. Donc je n'anticipe pas, parce que je risque fort peut-être de parler de façon approximative. Donc je vais céder la parole. Mais du coup, je voulais vous remercier les uns et les autres d'avoir accepté le jeu de ces journées particulières que sont les journées du patrimoine pour faire une place à. Alors, parce que c'est toujours un peu difficile pour un éditeur d'essayer d'ouvrir une maison d'édition pour des journées de patrimoine, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on va présenter? Les gens s'attendent à des monuments et à visiter des lieux illustres. Alors, on a un très beau cadre, mais on est tout à fait ravis que vous puissiez aller au-delà de notre cadre et de pouvoir exprimer ici, pendant ces journées du patrimoine, ce qu'est la démarche d'une politique éditoriale. C'est un patrimoine immatériel et donc on va essayer là ce soir de pouvoir lui donner une certaine matérialité par la parole. Merci. Alors, Bruno Doucet, en tant qu'éditeur, on a le rôle de parler avant les auteurs. Alors.
Merci Marc pour cet accueil. Alors bonjour, ben simplement quelques mots pour vous dire d'abord que la poésie, moi je suis éditeur de poètes et éditeur de poètes, la poésie est un territoire de paix. On ne connaît aucun poète ayant vraiment fait l'apologie de la guerre. Des poètes combattants dans l'histoire, il y en a eu, mais pour des raisons qui sont liées à la défense de la liberté ou de la démocratie. Donc la poésie est un territoire de paix qui se nourrit du dialogue entre les cultures, entre les langues, entre les pays, entre les êtres et les générations. Et pour les poètes et les éditeurs de ces poètes, la frontière est plutôt une sorte de ligne qu'on a envie de franchir par curiosité pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire parfois ce qu'il est très difficile de réaliser dans le reste du monde, par exemple, et Marc le sait puisqu'il les a accueillis ici ensemble, publier dans un même livre un auteur arabe et un auteur juif, publier ce livre en trois langues, français, arabe, hébreu, faire dialoguer des peuples qui sont en guerre dans la poésie, tout cela, ce sont des choses tout à fait, j'allais dire, normales. C'est une sorte d'utopie que le livre permet de réaliser. Et le livre devient véritablement à la fois un espace d'hospitalité et puis le territoire de l'échange. Voilà. Et pourtant, les poètes, dans l'histoire passée, mais aussi contemporaine, payent un lourd tribut, un très lourd tribut. Si vous commencez à songer au nombre de poètes ou de chanteurs, d'artistes qui ont été passés par les armes, qui ont fini la corde au cou, qui ont fini fusillés, qui ont été exécutés, alors la liste est innombrable. Et si on voulait leur rendre hommage, dans le cadre d'une journée du patrimoine, il faudrait commencer très tôt le matin. On peut en citer deux ou trois des poètes passés par les armes. 1936, on fête aujourd'hui le 80e anniversaire de sa disparition, Federico Garcia Lorca exécuté par les franquistes et son corps jeté dans un charnier dont il n'est toujours pas ressorti. Je parlais il y a un instant avec la jeune fille qui était à la caisse de Victor Jara, le chanteur chilien, exécuté par les sbires de Pinochet dans le stade de Santiago, là même où il chantait un an auparavant, devant un public émerveillé, et bien exécuté de 40 balles, pas une balle dans la tête, 40 balles dans le corps. Et son assassin vient seulement d'être extradé des États-Unis, ça date de quelques semaines. Nous étions en 1973. On parle aujourd'hui de poètes condamnés à mort dans les prisons saoudiennes, en Iran, en Syrie. Des chanteurs auxquels on a tranché la gorge pour leur éviter de qu'ils puissent exercer leur art. Des guitaristes auxquels on a coupé les mains, etc. Vous voyez, la liste serait très très longue. Alors là, il y a un paradoxe, parce que les poètes chantent la paix, et ils sont souvent les premières victimes, j'allais dire, emblématiques des dictatures ou des guerres. Et je ne vous parle pas de Charles Péguy, de Guillaume Apollinaire, de tous ceux qui sont tombés en 14 ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont été envoyés en déportation, simplement parce qu'ils avaient écrit leur amour de la paix et de la liberté. Alors ce préambule étant fait, puis ce paradoxe étant posé, j'ai simplement dire deux mots d'une collection que nous avons créée pour raconter tout cela aux adolescents et leur permettre de se positionner par rapport à ces grandes questions qui concernent l'humanité entière. Nous avons créé une collection intitulée Poèse idéale. Poèse apostrophe idéale. Bon, c'est un mot valise et on espère que ce mot valise est la valise dans laquelle les jeunes lecteurs vont pouvoir engranger un bagage culturel, si vous voulez, utile pour affronter leur vie d'adulte. Et ce que nous avons voulu faire dans cette collection, c'est construire des anthologies de poésie, petit format, petit prix, mais grand cœur. Vous voyez, petit format, petit prix, ça coûte 8,50 €. Ça fait 130 pages. Il y a au minimum 50 poètes du monde entier pour chacun des thèmes que nous traitons. Et puis, des éléments de présentation, un dossier qui permet de mieux comprendre, et même deux pages blanches à la fin dans lesquelles on dit aux jeunes lecteurs, maintenant c'est à toi d'écrire, prends la plume. Ce n'est pas parce qu'il nous reste deux pages à occuper, ces deux pages, elles sont là dès le départ, vous voyez, et on préfère même parfois renoncer à un texte, mais garder ces deux pages-là. Ça ne veut pas dire que les ados les rempliront, mais ça veut dire que nous considérons que l'acte de lire est l'antichambre de l'acte d'écrire, qu'à un moment donné, on a envie de devenir acteur de la poésie, et cet espace est pour eux. Alors, 50 auteurs qui sont rassemblés autour, on dirait, d'un thème, pas seulement d'un thème. Vous voyez, bien sûr, vous avez le métissage, la guerre, la liberté. Sur la table, ici, il y a également l'amour. Alors c'est un thème, non, c'est plus qu'un thème, c'est une valeur à défendre. En fait, c'est le pacifisme que nous voulons défendre. Le livre s'intitule « Guerre à la guerre ». Comment peut-on mener une guerre contre la guerre ? Benoît va nous parler de cela dans son domaine dans un instant. Et puis, la liberté, c'est aussi la liberté d'expression, celle qu'il faut préserver et défendre à tout prix. Le métissage, c'est quoi? C'est le refus du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations. L'amour, l'amour, c'est la reconnaissance de toutes les formes d'amour. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour pour tous, en étant respectueux de la psychologie de l'adolescent. C'est pourquoi nous commençons par exemple par des poèmes qui nous racontent de quelle manière le cœur peut battre et tristement lorsque le sentiment n'est pas partagé. Mais nous terminons à la fin du livre par des textes qui nous montrent que l'amour, comme le dit le poète grec Yannis Ritsos, contient dans son poing l'univers. C'est-à-dire que l'amour qu'on porte à un être humain, d'une certaine manière, c'est l'amour pour l'humanité tout entière et que le singulier porte l'universel. Voilà ce que nous avons voulu faire dans ce livre. Je n'en dis pas davantage parce que vous allez entendre des textes dans un instant. Et puis je passe la parole à Benoît pour son traité contre les armes.
Merci. Bonjour. Donc c'est... le lien pour moi est assez évident. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire, une histoire universelle de citoyens à travers le monde et qui un jour ont eu cette idée, cette utopie d'avancer sur un traité pour réguler le commerce des armes. Image un peu folle, comment on peut réguler le commerce des armes. Et pourquoi on est arrivé là-dessus? Et là, il y a le lien direct avec la poésie. C'est qu'on s'est aperçu que quand les armes étaient présentes, la parole disparaissait. La parole du poème disparaissait, la parole du poète qui disparaît. Et donc c'est un projet qui a démarré au sein d'une organisation que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Amnesty International, en 1983. Et parce que en regardant les violations des droits de l'homme et en regardant comment s'opéraient ces violations des droits de l'homme, on s'est aperçu que on avait besoin d'un outil et que l'outil de ces violations était dans 80%.